chronique de Vincent Olivier avec l'Express.
Vincent Olivier, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Cette semaine dans l'Express, un sujet sur les personnes électrosensibles.
Oui, effectivement, un journaliste de l'Express, Richard de Vandeuil, est allé à la rencontre de plusieurs personnes dites électrosensibles, c'est-à-dire particulièrement intolérantes aux champs électromagnétiques. Et d'ailleurs, va se tenir demain à 14h un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale pour réclamer une baisse importante de la puissance des antennes relais. Et donc, ces victimes nous ont raconté comment elles vivaient ce qui s'apparente, il faut bien dire, à une forme de calvaire.
Alors, quelles sont les manifestations de cette hypersensibilité donc aux champs électromagnétiques?
Alors, les personnes qui en souffrent parlent d'acouphènes, de douleurs musculaires intenses, de palpitations, mais aussi de vertiges et de perte de mémoire. Alors, pour s'en prémunir, évidemment, certains éteignent leur Wi-Fi, d'autres leur téléphone portable lorsqu'ils n'en ont pas l'usage. Mais il y a aussi des gens qui doivent carrément changer de mode de vie, comme Anne Cotin, que nous avons rencontrée, qui était auparavant agent de service en résidence universitaire et qui a été obligée de quitter sa maison pour aller se réfugier au fond d'une grotte, près de Gap, pour échapper justement à toutes ces nuisances.
Alors, est-ce qu'on a des explications scientifiques à cette hypersensibilité? Parce qu'évidemment, c'est intéressant de savoir ce que la science nous en dit.
Le professeur Dominique Bellepomme, qui est un cancérologue réputé, mais parfois un petit peu critiqué. Donc, le professeur Bellepomme est actuellement sur la piste d'un test diagnostique. Il a étudié plus de 400 patients et il a identifié une pathologie neurodégénérative qui serait, selon lui, liée à l'ouverture de la barrière hémato-encéphalite. C'est une ouverture qui serait donc due aux ondes électromagnétiques. Alors, cette piste mérite confirmation, n'est pas encore validée à ce jour, mais elle constitue néanmoins un premier pas. Et par ailleurs, des études européennes relativement récentes, Reflex ou Bioinitiative, pour n'en citer que deux, ont évoqué des risques pour la santé liés justement aux ondes électromagnétiques. Ce qui a conduit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en mai 2011, donc c'est relativement récent, à classer ces ondes comme possiblement cancérogènes. Et non, la question, c'est de savoir si c'est possible ou pas possible, in fine. Mais c'est aussi ce qui a conduit également le Conseil de l'Europe à réclamer la création de zones blanches, c'est-à-dire non couvertes par les réseaux téléphoniques.
Ça ne va pas être facile, en tout cas. Que disent les études menées sur ces questions?
C'est contradictoire, Mathieu. C'est justement, c'est bien là qu'est tout le problème. Parce que les recherches pour identifier d'éventuelles différences psychiques entre les électrosensibles et les autres n'ont rien donné. On peut dire des choses autrement. En fait, ils ne sont pas plus anormaux, ils ne sont pas plus faux que la population générale. De même, aucun lien de causalité n'a été formellement établi entre les symptômes dont on vient de parler et les ondes émises. Alors, il y a bien eu de nombreuses études, mais elles ne permettent pas de conclure de façon définitive. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'elles ces études bénéficient du soutien de l'industrie, elles sont négatives dans 75% des cas. Et à l'inverse, lorsqu'elles sont financées par le privé, elles sont positives dans 60% des cas. Au passage, on remarquera qu'on n'est ni à 100% ni dans un cas, ni dans un autre.
Combien de personnes en souffrent, a priori, on le sait?
Alors là encore, on manque un petit peu de données précises. En France, on pense, l'association qui s'appelle Robin des Toits cite le chiffre de 3% de la population. Ailleurs, en Allemagne ou en Suède, ça serait un peu plus. On parle de 10%.
C'est énorme.
C'est beaucoup, mais ça veut dire ça. On prend toutes les personnes qui se disent elles-mêmes un petit peu sensibles. Oui. Tout le monde n'est pas forcément dans le cas de la jeune femme qu'on a rencontrée qui va dans les grottes. C'est une capacité à être plus ou moins sensible à un certain nombre de choses. Et à propos de Suède, justement, il y a même une étude qui pronostique un taux de 40% de gens qui seraient sensibles, pas hypersensibles, mais sensibles. À l'horizon 2017, heureusement, on n'en est pas encore là pour l'instant.
Alors, sur le plan juridique, comment ça se passe dans les autres pays d'Europe?
Évidemment, ça diffère beaucoup selon les cas. En Grande-Bretagne, cette souffrance est reconnue comme une maladie. En Suède, elle est classée comme déficience fonctionnelle. Et en Espagne, un tribunal madrilène vient de reconnaître une incapacité permanente à un professeur qui souffrait de fatigue chronique, justement en raison des fameuses ondes. Mais en France, à ce jour, officiellement, ces troubles sont juste taxés de vagues handicaps.
Et comment les électrosensibles vivent-ils au quotidien?
Eh bien, quand ils ne sont pas au fond d'une grotte, ils se calfeutrent dans une couverture de survie pour faire un peu office de cage de Faraday, où ils protègent leur véhicule avec des revêtements en aluminium. Il y en a même d'autres qui préfèrent avoir recours à des peintures de blindage testées par l'armée allemande, voire des tissus en polyamide argenté recouverts de polyester. Alors je sais, présenté comme ça, ça a l'air un petit peu délirant, j'en conviens avec vous, mais il ne faut pas oublier néanmoins que ces gens-là souffrent réellement, quoi qu'il arrive, quelle que soit la cause scientifique ou pas des mots qu'ils allèguent.
Alors cet article est à lire dans l'Express qui vient de sortir,
c'est
Vincent Olivier. Merci beaucoup.
Merci Mathieu.
À bientôt.
À bientôt.